Ce matin, derrière le mobilier pour la projection et la table du Seigneur. Comme chaque premier dimanche du mois, on a le mémorial du prix de notre rédemption, mémorial de la passion du Christ. Et mois après mois, on le fait. Et on aimerait que, à chaque mois, se rappeler dignement. Le Seigneur nous dit que celui qui prend indignement le corps, le sang, le pain et la coupe, comme une faute envers le Seigneur. Alors on veut se rappeler dignement le prix de notre rachat. Et le texte de ce matin dans Luc chapitre 22, on continue nos études dans Luc, va nous conduire à cette table du Seigneur. Il y a un théologien du 11e siècle qui s'appelle Anselme. Il a écrit un ouvrage qui était connu, puisqu'on le connaît encore plus de 10 siècles par la suite. Il disait « Cur Deus Homo ». Il parlait latin, il écrivait en latin. Ce qui veut dire « Pourquoi Dieu s'est-il fait homme ?» Et il y a tout un traité sur cette question qu'il avait. « Pourquoi Dieu s'est-il fait homme ?» Et il en arrive à une phrase simple pour cette raison. Il dit que Dieu s'est fait homme parce que l'homme avait une dette que seul Dieu pouvait payer. Voilà pourquoi Jésus s'est fait homme. L'homme avait une dette que l'homme ne pouvait pas payer, que seul Dieu pouvait payer. Alors Dieu s'est incarné. Et nous regardons à travers cette dernière semaine comment Jésus est devenu ce que Jean-Baptiste avait pointé pour lui. Voici l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève le péché du monde. Et on est dans Luc 22, bien entendu, dans la dernière semaine, à l'heure où c'est arrivé, où l'heure est arrivée, où le Fils de l'homme, il disait lui-même, comme un grain de blé, allait tomber en terre, allait mourir et allait par la suite pouvoir porter beaucoup de fruits. Et Jésus, dans Jean, on va être dans Luc 22, mais dans Jean chapitre 12, quand il a mentionné cette notion-là, comme le grain de blé tombe en terre, ne peut pas porter du fruit s'il ne meurt, en pensant à cette passion-là, la Bible dit « son âme fut troublée ». Le mot grec était le mot, son âme, « tarasso », d'où on a tiré le mot « terrassé ». En arrivant cette dernière semaine, en regardant à la croix, son âme était troublée, tarassée, terrifiée, horrifiée. Ce seraient tous des synonymes qu'on pouvait dire. Et Jésus dit dans Jean 12, 27, « Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure! » Et vous vous souvenez la réponse? « Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Ce matin, nous allons regarder la prière de Jésus à Gethsémané. Et à travers cette prière-là, je pense qu'il n'y a pas d'autre endroit qui nous manifeste plus intensément l'humanité de Jésus. Et à travers ce moment où l'humanité de Jésus se manifeste avec ses plus grands feux, on voit la nécessité que Jésus aille à la prière à ce moment-là. Au moment où on va lire la carrière terrestre de Jésus à son dernier épisode, c'est-à-dire celui de la crucifixion sur une croix romaine, celui de sa mort sacrificielle pour la rédemption des péchés du monde. Jésus, en réalité, il s'est, la raison de son incarnation était la croix, et la croix manifeste, comme j'ai mentionné, le plus intensément, l'humanité de Jésus. Tant dans le fait qu'il nous a substitués, on comprend qu'à la croix, Jésus a pris notre place. Il nous a substitués. Qui devait être à la croix? C'était moi, c'était vous. Et il y a quelqu'un qui était au bat à votre place, qui était votre substitut. La colère de Dieu devait tomber sur moi, sur chacun de vous. Et Jésus a dit, je vais prendre la place de cet homme-là, je vais prendre la place de cette femme-là et je vais mourir à sa place. Dans cette notion-là, Jésus était humain. Non seulement parce qu'il allait, il allait subir physiquement la croix, mais aussi on le voit autour de cet événement central, comment il a eu d'intenses émotions humaines. Et à l'ombre de la croix, la prière de Jésus devenait tout à fait cruciale. Parce que comme on a dit la semaine dernière, par la prière, la volonté humaine s'associe à la puissance divine pour accomplir le plan de Dieu. C'est merveilleux la prière, quand je comprends ça. Quand je prie, j'associe la parole faible humaine et je l'attache à la puissance divine dans le but d'accomplir le plan de Dieu. C'est puissant, la prière. Alors Jésus, quand il pouvait se sentir le plus humain, si on peut dire plus ou moins dans sa vie, la prière est devenue l'élément capital dont il avait besoin. Et il avait même besoin de ses disciples pour l'accompagner et dire, venez donc prier avec moi. J'ai besoin qu'on prie ensemble. Ce matin, on va méditer quelques caractéristiques de cette prière de Jésus qu'on trouve dans Luc chapitre 22. Et on va lire les versets 39 à 46. Et à travers ces caractéristiques de la prière, de cette prière décisive de Jésus, de cette prière ultime, je prie non seulement que nous en soyons instruits, mais qu'elle nous inspire aussi à l'imiter quand nous allons prier dans nos requêtes. Particulièrement dans la dernière. Que ta volonté soit faite, non la mienne. Que ce soit une de nos prières les plus centrales dans nos vies. La volonté de Dieu dans notre vie. Prions Dieu quelques instants. Oh Seigneur notre Dieu, merci encore pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir être ici calmement et librement, ouvrir tes Écritures et te contempler. Te contempler dans ce jardin des oliviers, contempler à Gethsémané, te contempler dans ta prière. Et Seigneur, là tu t'es identifié tellement à nous. Donne-nous Seigneur à travers cette compréhension de ta prière, à notre tour de nous identifier à toi, de nous attacher à toi et de prier comme toi tu pouvais prier. Et je te prie ces choses pour la gloire de Jésus en son nom. Amen. Luc chapitre 22, à partir du verset 39. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Diverses caractéristiques de cette prière de Jésus. J'aimerais premièrement dire que la prière de Jésus, elle était audible. Les gens ont entendu la prière de Jésus. Si le texte de la Bible nous est parvenu, c'est que la prière de Jésus n'était pas du marmonnard tout seul. C'est que sa prière a été entendue. Entendue particulièrement par Pierre, par Jean et par Jacques. Il a laissé les disciples, il a pris les trois, puis il les a approchés plus proche de lui, puis à un jet de pierre, à une dizaine de pieds, à deux, trois mètres, il a commencé à prier et les disciples ont pu entendre la prière de Jésus. C'est comme ça que Jean, par exemple, dans Jean chapitre 17, nous raconte la prière sacerdotale de Jésus. Il nous donne plusieurs requêtes que Jésus avait données parce qu'il a entendu la prière de Jésus. Quand j'ai grandi, à la maison, on avait une photo de Jésus à Gethsémané. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ça. C'est une photo où Jésus est habillé avec un grand linge pourpre et rouge. Et là, il y a un rocher à peu près à 2,5 pieds de haut et il est à genoux. Puis là, il a les mains priées. Puis il regarde comme ça. Puis il prie là. Il a l'air à prier silencieusement, dignement, tout réservé à le Père. Je regarde le texte, je vois dans Jean chapitre 17, il dit « Jésus a levé les yeux au ciel et a dit « Père ». Jésus, il n'était pas nécessairement tout recroquevillé dans sa prière, mais il regardait vers le ciel, il disait « Père ». Et on entendait sa parole. Dans Luc chapitre 22, verset 41, comme on a vu, il s'est mis à genoux pour prier. Dans Matthieu, il se jette, Matthieu chapitre 26, verset 39, Jésus se jette sur sa face pour prier. Il bouge, Jésus. Il parle à Dieu comme ça, il se place à genoux, il se jette à terre, il est en train de marcher dans le jardin, il prie de façon audible. Dans Marc chapitre 14, verset 35, il dit, il se jette contre terre et prie. Jésus, voyez-vous, je pense pas qu'il priait silencieusement des murmures du cœur ou il n'était pas en train de répéter des mantras. Il parlait ouvertement à son Père, il ouvrait son cœur. Si vous tourniez dans Hébreux chapitre 5, verset 7, il est écrit « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. » Jésus, dans le jardin de Gethsémané, il s'est présenté devant son Père avec des grands cris, avec des larmes, avec des prières, avec des supplications. Je ne pense pas qu'il devait être juste là tout... en train d'égrener quelque chose, c'est pas en train, tout intérieur. Il devait ouvrir son cœur et sa voix à son Père, parce qu'il priait. Ça contraste vraiment avec souvent l'image que nous avons de la prière. Ça contraste avec la pratique que nous avons souvent de la prière. Voyez-vous, si quelqu'un ici commence à prier, puis s'il élève la voix dans sa prière pour dire « Seigneur, je crie à toi parce que j'ai besoin de toi », on dit « Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il me dérange. » On est plus habitué au style dans notre adoration publique que quelqu'un prie, puis on l'entend presque pas, puis là, ah, ça c'est pieux. Je ne veux pas dire que l'un n'est pas pieux, puis l'autre est pieux. Mais je veux dire qu'on a souvent cette notion-là que la prière puissante, c'est une prière cachée du cœur qui fait pas de bruit puis qui est juste à l'intérieur. Je veux vous dire que quand ça faisait mal, Jésus, il priait puis il criait à son Père avec des larmes, avec des supplications. Il ouvrait son cœur et disait « Père, mon Père, Abba, Père ». C'était audible. La prière, c'est l'occasion d'ouvrir son cœur à Dieu. Et les prières toutes faites, les prières toutes belles, les prières toutes pieuses ne sont pas toujours celles qui auront le plus d'impact sur le cœur de Dieu. Dieu veut que quand tu pries, tu lui ouvres ton cœur. Tu emploies le vocabulaire qui t'appartient, que tu lui dis ce que tu as sur le cœur avec tes mots à toi. Oh, je ne suis pas en train de dire que si vous lisez une prière, ce n'est pas bon, là. Parce que j'imagine que si vous lisez votre prière-là, vous l'avez lue d'avance, puis elle exprime l'expression de votre cœur. J'aime beaucoup chanter les prières. On a beaucoup de chants, puis ça lève positivement, là. Ça élève, je devrais dire. Ça élève mon cœur, les chants, parce qu'il y a des gens qui ont pensé à des manières de dire des belles choses à Dieu, puis dans les chants, on communique ça. Mais en même temps, quand nous prions, tombons pas dans la mécanique de répéter des mêmes prières puis qu'on n'a pas de lien, pensant qu'à la force de mots, on va être capable d'atteindre le cœur de Dieu. Ouvrons nos cœurs et parlons. Il y a quelques semaines, je priais avec quelqu'un, puis il a dit « Pratiquons l'ABC de la prière. » Hein, l'ABC de la prière, c'est quoi? Il dit « Audible, bref, concret. » Ah, j'ai dit, si, je vais me rappeler de ça. L'ABC de la prière, qu'elle soit audible, qu'elle soit brève, qu'elle soit concrète. La prière, ça ressemble au style de prière de Jésus. sa prière était audible. Sa prière de Jésus, elle était aussi personnelle. Dans le sens que la prière de Jésus n'était pas celle d'un autre. Puis elle n'employait pas des paroles impersonnelles. La prière de Jésus était personnelle parce qu'elle transpirait son cœur, son intérêt personnel, sa relation personnelle avec Dieu. Régulièrement dans les Écritures, quand Jésus prie, c'est quoi le premier mot qu'il emploie? Père. Il réalise qu'il se présente devant son Père. Ici, nous avons Père dans le texte. Si on avait tourné dans l'évangile de Matthieu, ça commence par « mon Père à moi ». Si on va dans l'évangile de Marc, c'est encore plus intime. C'est « Abba, Père ». Papa, c'est le mot hébreu pour les enfants qui parlent à leur papa. Papa, Père. La prière de Jésus, elle était personnelle. On devrait toujours réaliser puis apprécier le privilège que nous possédons dans la prière. En s'approchant de Dieu, que nous avons accès au trône de Dieu, au trône de la puissance de Dieu, et nous y avons accès comme un enfant parle à son Père. J'imagine que si ça me tentait, quand je visite Ottawa, d'aller voir M. Harper, puis d'arrêter au 24 Sussex, puis dire, « Ah, tiens, j'aimerais ça aller dire bonjour à Steven. » Puis là, je parque devant la rue, puis je commence à entrer. Comment pensez-vous qui c'est? Qu'est-ce qui va arriver? Ils vont dire, « Oh, ben, c'est qui toi? » Puis c'est drôle, l'horaire était un peu chargé pour la journée. Envoie-lui donc un courriel, il va te répondre. Hein? Ça va être comme ça. Mais si je suis un de ces... Il y a deux, trois enfants, lui, je pense. Si un de ces deux, trois enfants arrivait puis stationnait à côté, puis il y a une demi-heure dans l'heure du dîner, puis il a envie d'aller voir son père, il part, puis il roule, puis il passe. Qu'est-ce qui arrive? Les gens à Guérite, ils le regardent passer, puis « Bonjour! » Rouvre la porte, papa est au bureau. Salut papa, veux-tu partager mon lunch avec moi? Puis papa est ouvert. Quelle différence qu'il y a? Devant cet homme puissant, il y a une relation filiale, paternelle. Il y a un accès. Voyez-vous que vous avez cet accès-là comme enfant de Dieu quand vous priez? Le Dieu au contrôle de l'univers, sa porte est ouverte quand ses enfants viennent à lui. Puis qu'il leur ouvre leur cœur. Puis il dit, c'est papa, j'ai quelque chose avec... Je voudrais te parler de quelque chose. Il est là. La prière de Jésus, elle était relationnelle. Jésus, il réalisait qu'il avait le privilège de s'approcher du Dieu vivant. Puis de l'appeler Abba, Père. Et quand Jésus nous a montré lui-même à prier, il a dit, voici comment vous devez prier. Vous devez prier comment? Notre Père. Qui est aux cieux. Commencez par cette position, ce privilège que vous avez de vous approcher de Dieu dans la prière. Bien entendu, conservons le concept de s'approcher de Dieu avec respect. C'est pas hey Joe non plus là. Je veux pas qu'on prenne la notion de proximité puis d'intimité que nous avons avec Dieu puis enlever la notion de respect. Non non. Il est le Dieu de l'univers. On doit s'approcher de lui avec crainte et respect aussi, par la puissance qu'il a. Mais en même temps, on a un privilège de s'approcher du Dieu trois fois saint et tout puissant, de façon proche, avec proximité, avec intimité. La prière de Jésus était personnelle et la prière de Jésus, elle engageait son intelligence. Jésus, quand il priait, il avait des sujets de prière qui étaient clairs, qui étaient précis, qui étaient concrets. Moi, j'ai pas vu dans les Écritures beaucoup de types de prières de Jésus. Dieu bénit tout le monde. Dieu merci pour tout. Dieu prend soin de tous les petits-enfants de la terre. J'ai pas vu ça. Est-ce qu'on aurait pu prier ça? Peut-être. Mais c'est tellement flou, c'est tellement général, c'est pas concret, c'est pas précis. Quand je vois Jésus qui prie, il prie avec des situations précises, pour des personnes précises. On a vu la semaine passée quand il priait pour Pierre. Il dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais Pierre, fais-toi-en pas, j'ai prié pour toi. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu, prends soin de lui. Dieu, fais-lui du bien. Dieu, garde ses pas. Qu'est-ce qu'il a prié? Il a prié précisément. Il a dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne s'éclipse pas, qu'elle ne perde pas sa lumière complètement, que ta foi ne défaille pas. J'ai prié pour ça, précisément. Et présentement, ce matin, dans sa prière, il va prier simplement, disant, verset 42, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. » Jésus, sa prière engageait son intelligence. Il a prié simplement, « Seigneur, papa, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. » Jésus voyait la coupe qu'il allait boire. Cette coupe qui était en fait de porter le fardeau des péchés du monde, de porter les conséquences des péchés des hommes. Jésus allait prendre sur lui la coupe débordante de nos péchés. Parce que Jésus, à la croix, allait être fait péché pour nous. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. « Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. » afin que nous puissions par lui être justifiés. Je ne sais pas si c'était comme il faut. Lui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il était fait péché pour nous. Il a pris sur ses épaules mon péché. Il a pris la coupe remplie des péchés de l'humanité, les miens et les vôtres. Jésus allait boire la coupe de la malédiction de Dieu sur le pécheur. Il y avait une malédiction sur nous. Et Jésus nous a rachetés de la malédiction en devenant malédiction pour nous. Parce qu'il est écrit dans Galates 3:13, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » La coupe de la malédiction de Dieu. La coupe débordante de nos péchés. Jésus savait qu'il allait être séparé du Père et il allait boire la coupe de la colère divine, qu'il allait être abandonné. Ça, dit Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. À la croix, Jésus a crié plus tard, j'ai soif de cette relation avec toi. Il disait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était en train de boire la coupe de la colère divine, où la communion était enlevée et c'était la colère qu'il vivait. On lit quelquefois Ésaïe chapitre 53, les versets 5 et 6. Il était blessé pour nos péchés. Blessé. Qui faisait la blessure? Le Père blessait, frappait son Fils. Il était brisé pour nos iniquités. Le châtiment, la Bible dit, qui nous donne la paix, que Dieu donnait, est tombé sur lui. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alors Jésus disait, « Oh, si tu voulais éloigner cette coupe. » Il comprenait bien, sa prière engageait son intelligence. Mais plus que partout dans les Écritures, sa prière engageait son cœur, ses émotions. Jésus était humain, il avait une intelligence, il avait des émotions, il avait une volonté. Et dans le texte autour de Gethsémané, ses émotions relèvent particulièrement. Jésus, à Gethsémané, il a demandé la compagnie puis le soutien moral de ses amis. Parce que la Bible dit, son âme était triste jusqu'à la mort. Est-ce qu'on peut s'imaginer? Jésus, au verset chapitre Matthieu 26, 37, il dit, « Jésus éprouvait de la tristesse et des angoisses à ce moment-là. » Marc, chapitre 14, verset 33, nous dit qu'il avait de la frayeur face à ce qui allait venir devant lui. Un commentateur, Cranfield, il dit que dans ce mot « frayeur », il dit, « C'est d'être aux prises de frissons d'horreur en face de la perspective terrifiante de ce qu'il attendait. » Jésus était aux prises avec des frissons d'horreur en face de ce qui allait lui arriver. Sa prière engageait les émotions. il nous est mentionné ici dans le verset 44, il était en agonie. Et en agonie, il priait plus instamment. Et dans étant en agonie et dans sa prière plus instance, la sueur est devenue comme des grumeaux de sang. J'ai en compris un mot l'autre semaine avec Dominique. Il a appelé ça, je l'ai écrit, l'hématidrose, c'est ça? L'hématidrose est une sueur rosée provoquée par une grande détresse émotive. C'est un problème médical. Quand le stress est tellement grand que la sueur, les vaisseaux sanguins se brisent et la sueur devient rosée et elle tombe. Jésus, dans son agonie, priait tellement instamment, ses émotions étaient absolument très fortes. Il était en agonie. C'est pour ça que l'on voit dans Hébreux chapitre 5, verset 7, Jésus a présenté des supplications avec de grands cris, avec larmes, parce qu'il était pleinement conscient, non seulement de la mort physique qu'il attendait, mais de la détresse spirituelle qu'il attendait, le fait d'être séparé de son Père pour porter le jugement de nos péchés à la croix. Oui, la prière de Jésus, elle était humaine. Elle impliquait son intelligence. Elle impliquait ses émotions. Elle impliquait sa volonté. Parce qu'au-delà des angoisses humaines que Jésus pouvait voir, Jésus avait le désir ultime de faire à tout prix la volonté de son Père. Quand Jésus était en larmes et en cris, priant à son Père, il n'était pas en train de lutter sa volonté contre la volonté du Père, là. Il n'était pas déchiré, je veux pas. Il voulait à tout prix faire la volonté de son Père. Ça, c'était fondamental, c'était ultime. Maintenant, est-ce que ça devait impliquer la croix? Ça, c'était la prière. C'était pas « Seigneur, je veux pas, puis toi tu veux, je voudrais donc pas ». Il n'y avait pas de chicane là dans la prière. Il disait « Seigneur, Père, je veux faire ta volonté par-dessus tout. Est-ce que ça serait possible que cette coupe s'éloigne? » J'aime la notion, ça l'impliquait sa volonté. Jésus dit d'abord dans notre verset 42, « Si tu voulais éloigner cette coupe. » Dans Matthieu 26, il dit, « S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi dans la première fois qu'il prie. » Et il n'y a pas de réponse. C'est le silence du Père. Alors il reformule sa prière. Dans Matthieu chapitre 26 et dans Marc. Dans Matthieu chapitre 26, il dit, « S'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, alors que ta volonté soit faite. » Dans les deux requêtes, c'était toujours la volonté du Père qui correspondait à la volonté suprême de Jésus. « Que ma volonté ne se fasse pas, » il dit au verset 42, pour être sûr qu'on ne se mêle pas. « Si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, parce que mon désir ultime, c'est de faire ta volonté, Seigneur. » Dans Matthieu 26, « Que ta volonté soit faite. » Le contenu de la prière, les émotions de Jésus, sa volonté, montraient la limite de son unité avec notre nature. Et dans l'unité avec notre nature, sa prière manifestait cette grande dépendance en regardant au Père, à dépendre de lui, à être obéissant de façon complète. Et dans cette prière à Dieu, à l'aide, le Père lui a répondu sur le champ en lui donnant de l'aide. Verset 43. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Quel modèle! Quel modèle de prière pour nous! Est-ce qu'on va passer, nous aussi, des moments de difficulté, de détresse? C'est-tu possible qu'on passe des moments de détresse intense? Mais qu'on regarde... Genre, on regarde à Jésus puis on dit, « Oui, Jésus, toi aussi, t'as passé des moments de détresse extrême. » Et comment t'en es sorti? Tu t'es adressé au Père. Tu t'es adressé au Père en ouvrant ton cœur, en faisant pas des belles prières pour gagner son vocabulaire. Mais t'as pris les mots que t'avais. T'as élevé la voix au Père. Oui, t'as crié, t'as marché peut-être dans le salon, puis t'as dit, « Seigneur, interviens dans cette situation-là. » Tu as mis ton intelligence, tu as demandé des requêtes précises. C'était correct que tu verses des pleurs, que tu cries à l'Éternel, que tu exprimes tes émotions, que tu dis « Seigneur, j'ai peur, je suis anxieux, je suis terrifié par ce qui arrive. » C'est correct de dire ça à Dieu. Mais de dire « Seigneur, mon cœur est de faire ta volonté à tout prix. » Et le Seigneur répond à ce moment-là. Il envoie de l'aide. Il en a envoyé même à Jésus. Un ange est venu pour le fortifier. Vous vous souvenez, c'est arrivé la même chose dans Matthieu chapitre 4, quand Jésus a été tenté par le diable dans le désert. Après ça, des anges sont venus le servir. La prière de Jésus, oui, elle était personnelle. Et je vais vous dire que la prière de Jésus était efficace. Il n'a pas manqué son coup dans la prière qu'il a adressée à son Père. Les disciples, eux autres, ils n'ont pas pu veiller, puis ils n'ont pas pu prier avec Jésus, puis ils sont tombés en tentation. Malgré le fait que leur esprit était bien disposé, leur chair était faible, ils n'ont pas prié et ils ont tombé. Il y a seulement Jésus qui a prié. Et parce qu'il a prié, il est demeuré ferme dans la suite des événements. Et par conséquent, il a été capable d'accomplir parfaitement l'œuvre de rédemption que Dieu avait pour notre salut. J'aimerais que vous tourniez dans Hébreux chapitre 5. Hébreux 5, les versets 5 à 10. Parce que sa prière était efficace, Jésus est devenu le sacrificateur parfait qui a accompli le sacrifice parfait pour que nous recevions un salut parfait. Hébreux chapitre 5, à partir du verset 5. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Comme il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. » C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchizedek. Jésus a prié, et par la suite, il a été capable de devenir, à Golgotha, à la fois souverain sacrificateur, qui allait offrir un sacrifice lui-même, pour la rédemption, pour le salut des hommes. Jésus, le souverain sacrificateur parfait, il a été exaucé. Ça l'a marché, son sacrifice, à cause de sa piété. Puis après ça, il a été élevé à la perfection. Jésus, par les choses qu'il a souffertes, par le sacrifice de sa vie, une fois pour toutes, peut maintenant sanctifier tous ceux qui placent leur confiance en lui. Oh, c'est un peu plus loin. Tournez, s'il vous plaît, Hébreux 10, 8 à 10. Dans le même livre. Hébreux 10, 8 à 10. Après avoir dit d'abord, Hébreux 10, 8, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour en établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est en vertu de cette volonté de s'offrir en sacrifice que nous sommes maintenant sanctifiés une fois pour toutes. Tous ceux qui placent leur confiance en Jésus sont sauvés, sont sanctifiés. Et par conséquent, Jésus est devenu l'auteur d'un salut éternel. Et la Bible dit que maintenant, il sauve parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, ayant acquis un salut qui est complet et parfait. Les prières de Jésus à Gethsémané lui ont permis de demeurer fidèle dans les événements qui allaient suivre le lendemain, la mort et par conséquent l'ensevelissement et la résurrection, et il a été exaucé. Les prières de Jésus ont été efficaces et il est devenu pour moi comme pour vous un souverain sacrificateur, un prêtre parfait. Il est devenu le sacrifice parfait, lui sans péché, portant nos péchés. Et il est l'auteur d'un salut parfait pour nous. Lorsqu'une personne se repent de ses péchés, place sa foi en Jésus, Jésus prend ses péchés, les pardonne et lui donne un salut éternel, lui donne la vie éternelle. On peut avoir aujourd'hui l'assurance de la vie éternelle, pas parce qu'on est meilleur que personne d'autre, mais parce que Jésus est devenu l'auteur de mon salut éternel et parce que j'ai placé ma confiance en lui. Dites-moi ce matin, est-ce que tu connais ce Sauveur merveilleux qui a donné sa vie pour toi? Et si tu ne le connais pas de façon personnelle avec comme ton Sauveur, il t'appelle aussi à son salut. Est-ce que tu as réalisé qu'à la croix, Jésus a payé pour toi? Est-ce que tu as réalisé, par exemple, que son salut, il devient efficace pour ceux qui croient, ceux qui le reçoivent personnellement? Oh, en regardant la prière de Jésus à Gethsémané, sache qu'il a été exaucé et que maintenant, il peut offrir à quiconque s'approche de Dieu par Jésus et peut offrir le salut éternel. Si tu n'as pas ce salut éternel-là, crie à Dieu. Parle-lui dans tes mots. Dis-lui que tu veux qu'il devienne son sauveur. Dis-lui que tu veux suivre sa volonté par-dessus tout, que tu veux te détourner de tes péchés puis que tu veux le suivre. Et savez-vous quoi? Jésus est prêt à te donner un salut éternel, un salut personnel. Je ne connais pas de meilleure bonne nouvelle que celle-là. Que celle de voir que mon Sauveur à Gethsémané prie et que le Dieu dit, je t'ai exaucé. Par conséquent, il est ressuscité des morts. Et maintenant, il offre le salut à quiconque se tourne vers lui. Et ce matin, on s'approche aussi de la table du Seigneur. Et on aimerait lui exprimer aussi de notre reconnaissance, de la même manière que Jésus pouvait le faire, de manière audible. On est là pour adorer le Seigneur de manière personnelle, de lui parler avec toute notre âme, avec toute notre pensée, avec toute notre force. Adorons le Seigneur. Et rappelons-nous ensemble du prix de notre rédemption. Rendons grâce à notre sacrificateur pour le sacrifice qu'il a offert, pour le salut qu'il nous a donné. Et puissions-nous, comme Jésus, vivre avec cette requête fondamentale dans nos cœurs, que ta volonté soit faite, non la mienne. Oh, merci Seigneur Jésus pour cette prière, qu'elle puisse être un modèle pour nous. Oh Seigneur notre Dieu, on s'approche de toi ce matin pour te dire merci. Merci parce que devant la croix, tu n'as pas reculé. Et malgré la faiblesse de l'humanité, malgré l'angoisse, la frayeur, l'agonie, tu as prié. Et la puissance de Dieu t'a fortifié pour que tu puisses affronter la croix et ainsi pourvoir pour chacun de nous un salut éternel. Reçois ma reconnaissance. Reçois notre reconnaissance. Seigneur, s'il y a des personnes ici ce matin qui n'ont pas reçu personnellement ce salut dans leur vie, je te prie, Seigneur, qu'ils puissent te parler, s'approcher de toi, invoquer ton nom et demander que tu les sauves, que tu leur donnes la vie éternelle. C'est ton désir, Seigneur Jésus. Attire-les à toi. T'en prions au nom de Jésus. Amen.